Accent d'Europe, Catherine Roland.
Era nascer em maio, e foi atacado. O primo giorno que me visitou.
Bonjour à tous, il est l'un de ces juges courageux en Italie qui consacrent leur carrière à la lutte contre la mafia. À Reggio de Calabre, Roberto Di Bella a trouvé une nouvelle manière de lutter contre la toute-puissante mafia locale, la 'Ndrangheta. Depuis 2011, il obtient des décisions de justice pour exfiltrer les enfants de mafieux vers d'autres régions de la péninsule. Le juge tente ainsi de les soustraire à cette culture de la criminalité. Il veut aussi casser le cercle infernal de reproduction des clans mafieux. Et c'est le reportage à Reggio de Calabre de Frédéric Lebel.
Un simple portique de sécurité marque l'entrée du tribunal pour mineurs de Reggio, chef-lieu de la région la plus pauvre d'Italie. Le bâtiment est vétuste. Au premier étage, le juge Roberto Di Bella ne nous en dira pas plus sur les menaces qui pèsent sur lui. La sécurité est assurée, mais vous ne l'avez pas remarqué, commente-t-il laconique. Voilà 7 ans que ce juge éloigne, pour mieux les protéger, les enfants des familles mafieuses. Une 60aine de mineurs ont déjà bénéficié de ce programme.
Quand on fait ce programme d'exfiltration, c'est vraiment pour montrer qu'une autre vie est possible pour ces jeunes. D'une certaine manière, c'est un peu l'Erasmus de la légalité, pour leur montrer qu'il y a un autre système social et familial dans lequel ils peuvent s'intégrer, avoir des vies différentes. Une vie dans laquelle il y a une vraie égalité entre les femmes et les hommes, où les mariages peuvent être libres et non imposés par la famille. Aussi une vie où la prison n'est pas une étape obligée. Avec tous les mariages arrangés qui permettent de maintenir les clans, les filles sont les premières victimes. Et notre objectif à nous, c'est vraiment de les rendre libres de leur choix.
C'est en utilisant les ressources du droit de la famille et de la protection de l'enfance que le juge parvient à ses fins. Il a compris qu'il pouvait compter sur celles qu'il appelle les veuves blanches, des mères qui veulent sauver leur enfant.
Quand mon programme a commencé à être connu, de nombreuses mères sont venues me voir. La plupart sont des femmes blanches entre 30 et 40 ans avec des jeunes enfants et un mari en prison. Et elles ont compris qu'on pouvait les aider. Elles espèrent vraiment une rédemption. Celles qui collaborent avec la justice, on change leur identité. Et pour celles qui veulent s'éloigner avec leur enfant, elles gardent leur nom, mais on les insère dans tout un réseau d'associations hors de la Calabre.
Obtenir le soutien des mères dans ces mesures d'éloignement, c'est toute la stratégie du magistrat face à une mafia surpuissante qui contrôle le commerce mondial de la cocaïne et qui fonctionne par clans familiaux. Les enfants n'ont bien souvent même pas conscience d'être victimes.
Les enfants ne vont pas s'opposer spontanément à leurs parents. Ils sont endoctrinés dès le plus jeune âge. Ils sont dans une situation de pouvoir et de domination qui les met en porte-à-faux vis-à-vis des institutions. Par exemple, vers 12-13 ans, ils commencent à cracher sur les voitures de la police. Et de plus en plus, on voit des jeunes qui se tatouent sur la plante des pieds la figure d'un policier. Comme ça, ils peuvent le piétiner.
Dans son travail, le juge Di Bella s'appuie sur tout un réseau d'associations anti-mafia comme Libera, mais aussi sur un réseau de psychologues, dont fait partie Saverio Sergi.
Bonjour.
C'est dans un quartier infiltré par la mafia que le thérapeute nous a donné rendez-vous. Ici, tous les commerçants sont racketés, explique-t-il, et les pères ne sont plus là. Dans le centre d'accueil, il reçoit des enfants en difficulté. Les fils et filles de mafieux sont souvent de grands dépressifs qui s'ignorent.
Ce sont des enfants en souffrance. Les jeunes qui grandissent dans une famille mafieuse ont une vision très dysfonctionnelle de la famille et de la société. Ils ont souvent peur parce qu'ils ont été confrontés à la mort par les armes à feu. La mort, c'est un peu leur quotidien. Ils ont grandi sans père. Il a été tué, ou bien il est en prison, ou il se cache. Beaucoup d'études ont montré que ces jeunes ont développé des comportements d'anxiété. Ils sont très marqués par la force physique. Ils développent beaucoup de frustration si leurs désirs ne sont pas assouvis. Souvent, ils ont un sentiment de toute puissance.
Un senso di onnipotenza, che tutto è possibile.
Depuis qu'il fait ce travail et qu'il est juge honoraire du tribunal pour mineurs, Saverio Sergi a reçu des menaces. Un garde du corps a même été posté en bas de son immeuble. Mais le psychologue est fier des quelques cas emblématiques qu'il a pu arracher aux griffes de l'Ndrangheta.
J'ai le cas d'une jeune fille que j'ai suivie et qui, à l'issue de sa psychothérapie, a choisi de suivre des études de psychologie. Par la suite, j'ai aussi pris en consultation son père, qui avait fait 10 ans de prison dans le quartier de haute sécurité, le 41 bis, réservé aux chefs mafieux. La mère était morte après avoir ingéré de l'acide chlorhydrique. Le père, qui a pu faire son autocritique, s'est réinséré progressivement dans la société.
L'exemple est hors norme. Dans la plupart des cas, les enfants doivent s'éloigner du père, pater familias et boss, tout à la fois. Une mesure que certains fustigent comme une double peine pour les enfants et dont on ne connaîtra les résultats que dans plusieurs générations.
Sécheresse, épuisement des ressources, pollution, mais aussi mauvaise gestion de l'eau. Le plus long fleuve de la péninsule ibérique est en train de mourir, littéralement. Long de plus d'un millier de kilomètres, le Tage est aussi victime de transferts d'eau vers le sud-est de l'Espagne, là où se pratique l'agriculture intensive. Plusieurs plateformes citoyennes se mobilisent donc pour sauver sa faune, sa flore, mais aussi l'activité des habitants riverains de ce fleuve qui atteint des niveaux records de pollution. Reportage Diane Cambon.
Chaque 19 du mois, des habitants de Tolède, mais aussi de Talavera ou d'Aranjuez, manifestent sur les rives du Tage pour exprimer leur colère. Ces citoyens veulent attirer l'attention des autorités publiques sur la santé alarmante du plus long fleuve de la péninsule ibérique. La faiblesse de son débit a engendré ces dernières décennies un processus de dégradation, comme l'explique Anna Maria, qui vit à Tolède, la principale ville de la région Castille-La Manche, arrosée par le fleuve.
C'est un fleuve à l'agonie qui traverse la ville en charriant des impuretés, des mousses toxiques, plein de saloperies. Et malgré cet état, on continue à le maltraiter avec des dérivations d'eau qui n'ont pas de sens.
La politique de l'eau menée en Espagne depuis près de 40 ans est au centre des revendications des manifestants. Au sortir de la dictature, l'Espagne se lance dans des grands travaux d'aménagement du territoire et décide de construire deux énormes canalisations pour transférer l'eau du Tage jusqu'au fleuve Segura. La principale rivière qui irrigue les plaines maraîchères du littoral méditerranéen de Murcie et Valence. Ce sont près de 400 millions de mètres cubes d'eau du Tage qui partent chaque année arroser ces cultures intensives de Murcie et les golfs des stations balnéaires. Or, ce prélèvement a des conséquences écologiques désastreuses sur la vie du fleuve, comme l'explique Rosa Prieto, agronome de formation et militante de l'association Rio Tajo Vivo, le Tage vivant.
Le fait de pomper une telle quantité d'eau a pour conséquence de réduire énormément le débit du fleuve. Or, avec aussi peu d'eau, le fleuve ne peut plus exercer sa fonction naturelle de filtre et de nombreuses substances toxiques stagnent.
À cela vient s'ajouter que le Tage charrie une bonne partie des eaux usées de la communauté de Madrid. Même si la capitale dispose de 8 centrales d'épuration, l'eau qui y sort n'est pas pure, selon Rosa Prieto.
Il y a certaines substances que l'on ne peut pas éliminer. Imaginez 6 millions de personnes qui consomment des anxiolytiques et des antibiotiques. Tout cela se retrouve dans les urines et on ne parvient pas à les enlever. Elles finissent dans l'eau du fleuve.
C'est tout l'écosystème du lit du fleuve qui s'est modifié au fil des années. Certains tronçons ressemblent à des lacs stagnants où l'eau ne coule plus, sans poissons et dégageant des odeurs nauséabondes, avec des nuées d'insectes et des montagnes d'algues. Roberto, médecin de 63 ans, dans un petit village proche de Talavera, se désole de voir l'état de son fleuve.
Tout a été emporté avec l'eau du fleuve, une culture, une façon de vivre dans laquelle j'ai grandi. Moi, j'ai pu voir l'eau du Tage propre, j'ai accompagné mon père à la pêche à l'anguille, j'ai appris à nager dans ce fleuve, et j'ai même bu l'eau du Tage. Mais aujourd'hui, tout est pollué.
Mais ce qui l'irrite le plus, c'est le négoce qui est derrière toute cette politique de l'eau. La volonté de développer un tourisme de masse et une agriculture intensive sur le littoral méditerranéen.
Entre 70 et 80% de l'eau propre prise à la source du Tage va vers l'est pour la région de Murcie. Et ça génère beaucoup d'argent, non pas pour les agriculteurs traditionnels, mais pour ceux qui font du business avec l'eau. Je crois que certaines personnes avec du pouvoir ont pris possession de cette ressource naturelle au détriment de notre région.
Chaque année, le gouvernement national en place décide de prolonger ou augmenter le transfert d'eau vers les régions du Levant, selon les demandes des agriculteurs et du secteur touristique. Or, le nouvel exécutif socialiste qui a fondé pour la première fois de la démocratie un ministère de transition écologique vient d'émettre des doutes sur la politique des transvasements hydrographiques. Il a laissé entendre que l'eau n'était plus disponible à volonté. Un soulagement pour Rosa Prieto qui se bat pour attirer l'attention des plus hautes autorités. En 2016, elle a réussi à alerter Bruxelles.
Nous avons réussi à faire venir 12 eurodéputés pour constater l'état du fleuve à son passage à Talavera, car le Tage ne remplit pas les objectifs basiques de la directive cadre sur l'eau. Suite à leur visite, un rapport a été publié et ils dénoncent la gestion du gouvernement espagnol des eaux des fleuves et en particulier du Tage. Tous les fleuves espagnols souffrent de surexploitation. Autrement dit, on pompe plus d'eau qu'on ne peut en utiliser.
La situation devient encore plus critique en période de sécheresse. Malgré les abondantes pluies de printemps, les réserves des retenues d'eau sont à moins de 50% de leur capacité et le Tage n'est plus qu'un filet d'eau à certains endroits. Il s'écoule nonchalant sous le regard frustré des enfants qui aimeraient s'y baigner.
C'est une énième mauvaise nouvelle pour les retraités français. Pour boucler son budget 2019, le gouvernement compte encore sur eux. Après une hausse de la CSG pour les plus aisés, ce sont cette fois-ci les pensions qui vont en prendre un coup. Elles ne seront plus indexées sur l'inflation. De quoi provoquer la grogne des retraités qui se sentent visés par la politique d'Emmanuel Macron. Mais les retraités sont-ils vraiment mieux traités dans les autres pays européens? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors, les retraités qui perdent du pouvoir d'achat, est-ce que c'est nouveau en France ?
Pour l'ensemble des retraités, oui, c'est nouveau, Catherine. Malgré une indexation théoriquement systématique sur l'inflation, les retraites du régime général ont bien été gelées entre 2013 et 2015, mais globalement, sur la dernière décennie, elles ont été revalorisées du montant exact de la hausse des prix depuis 2008, soit 8,5%. En revanche, cela n'est pas le cas des retraites complémentaires qui, en 10 ans, n'ont augmenté que de 7,4% pour l'ARCO et seulement de 5,3% pour l'AGIRC. En somme, les retraités cadres ont perdu plus de 4% de leur pouvoir d'achat depuis 2008.
Et ces retraités, est-ce qu'ils se serrent aussi la ceinture chez nos voisins ?
À une exception près, la réponse est non. Car il n'y a guère qu'en Suède que la progression des pensions en 10 ans a été inférieure de 2 points à la hausse des prix. Mais ce n'est pas en raison d'une volonté politique délibérée, puisque le système suédois de retraite rend obligatoire la contribution des bénéficiaires lorsqu'ils passent en déficit, comme ce fut le cas en 2010, 2011 et 2014. Ces années-là, les pensions suédoises ont donc baissé.
Cela veut dire que dans les autres pays, les retraites augmentent.
Oui, c'est par exemple le cas en Allemagne, où le montant moyen versé dans les Länder de l'Ouest s'est accru de 20% pour une inflation limitée à 13%. Une hausse du pouvoir d'achat des seniors de 7 points, qui est encore plus spectaculaire en Espagne, puisqu'elle atteint 20 points depuis 2008. Les Britanniques ne sont pas en reste, avec un pouvoir d'achat en hausse de 15%, hausse également aux Pays-Bas de 4%, et même en Italie, bien que les gains s'y limitent à 1,3%. Donc, sur le plan de l'amélioration des retraites, les seniors français sont fondés à se plaindre.
En est-il de même quant au niveau des retraites ?
Là, le tableau est différent. En 2018, les retraités français touchent en moyenne une pension de 1390 € par mois. C'est pratiquement le même montant que les Allemands, dont les salaires sont pourtant plus élevés. C'est plus que les Italiens et les Espagnols, qui n'atteignent pas les 1100 € mensuels. En revanche, on est loin des 1800 € touchés en moyenne par les Suédois ou des près de 2000 € dont bénéficient les pensionnés célibataires néerlandais. En ce qui concerne les Britanniques, la comparaison s'avère plus délicate, car à l'instar des Néerlandais ou des Danois, leur système de retraite est à plusieurs étages. Il y a la State Pension, une retraite forfaitaire versée sur fonds publics qui s'apparente en quelque sorte à un minimum vieillesse et qui ne varie pas en fonction des revenus. Elle est d'environ 900 € par mois. Mais les Britanniques doivent obligatoirement s'affilier à un régime complémentaire individuel ou dans le cadre de l'entreprise qui relève d'un système de capitalisation. Des revenus additionnels tout à fait substantiels puisqu'ils portent le revenu moyen des retraités à près de 1800 euros mensuels. Mais attention, comme aux Pays-Bas où la capitalisation est très développée, ces revenus confortables sont menacés en cas de crise lorsque les rendements des fonds de pension s'effondrent.
C'est donc plutôt en termes de revenus sécurisés, Daniel, que les retraités français sont bien lotis.
Oui, c'est ce que reconnaissent toutes les études internationales. De fait, les Français sont champions en termes de taux de remplacement du salaire. Leur retraite atteint 68% de leurs précédents revenus salariaux. C'est bien plus qu'en Allemagne, 46%, qu'au Royaume-Uni, 53%, et même qu'en Suède, 57%. Et si les Italiens, voire les Espagnols, sont proches du niveau français, c'est que la crise a fortement comprimé les revenus salariaux dans ces pays, tandis que les gouvernements ont fait le choix d'y protéger les retraités. Reste que si l'on compare le revenu moyen des plus de 65 ans en France au revenu moyen de l'ensemble de la population, les seniors français gagnent 14% de plus. C'est un record européen.
Et quid des retraités les plus pauvres ?
Grâce notamment au minimum vieillesse, 833 euros pour une personne seule, le taux de pauvreté des retraités français est, mis à part celui des Danois, le plus faible des pays de l'OCDE, avec seulement 3,6% de personnes concernées. Les Allemands et les Italiens sont plus de 9% dans ce cas, et les Britanniques près de 14%.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. À bientôt, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Il y a encore quelques années, l'offre de restaurants à Kiev pouvait, on peut le dire, décevoir. Faute de mieux, on pouvait vite se retrouver dans un fast-food. Les Ukrainiens eux-mêmes restaient sur leur faim, mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Kiev regorge maintenant de restaurants et de bars en tout genre. Alors pour accompagner le mouvement, une Française expatriée dans la capitale ukrainienne a publié un guide gastronomique, le Pink Guide, une couleur vive pour accompagner une véritable révolution, Sébastien Gobert.
Souhaitez-vous prendre un café, un verre, manger ukrainien ou asiatique, un déjeuner rapide ou un grand banquet entre amis, ou bien faire une rencontre amoureuse? Tout est désormais disponible à Kiev. Ça paraît simple de le dire, mais quand Maud Joseph est arrivée à Kiev en 2013, on en était très loin. L'offre était bien moindre et les rares endroits agréables étaient très prisés.
Une fois qu'on a trouvé un restaurant qui nous plaît, ou deux, ou trois, ou même quatre, on ne prend plus le risque d'en changer et on se retrouve toujours aux mêmes endroits, quelle que soit l'occasion.
Après la révolution de la dignité en 2014 et dans le climat de guerre face à la Russie, tout change. Des restaurateurs qui avaient passé plusieurs années à vivre à l'étranger développent une nouvelle offre plus raffinée, plus attrayante. La cuisine ukrainienne s'invente ou se réinvente. Elle se différencie des plats traditionnels à base de patates, de viande, de choux et de crème fraîche.
À Kiev, pendant longtemps, il y a eu une dizaine de restaurants que je qualifierais d'historiques. Depuis fin 2014, début 2015, l'offre food a véritablement explosé. On a vu apparaître de nombreux nouveaux concepts comme les gastrobars. Enfin, en 2016, l'Ukraine a commencé à se réapproprier sa cuisine. Il y a eu récemment de nombreuses ouvertures de restaurants aux spécialités ukrainiennes revisitées.
Maud Joseph entreprend donc de recenser ces nouveaux restaurants et d'en décrypter les subtilités. Ici, une redécouverte d'une gastronomie régionale. Là, une terrasse coupée de la circulation, endroit rare à Kiev. Là encore, un café-restaurant branché où les personnalités et les princesses, selon l'expression du guide, aiment s'afficher. Et enfin, un endroit où les enfants peuvent jouer. Avec très souvent une ambiance très décontractée et festive.
Les Ukrainiens n'ayant pas, comme en France, cette tradition de recevoir chez soi, les réceptions comme les anniversaires ou les dîners entre amis se font en restaurant. Et cela donne une véritable ambiance festive et joyeuse au lieu.
La première édition sur Kiev est sortie en 2016. Maud Joseph a aussi publié un Pink Guide sur Odessa et un autre sur Paris. Pourquoi Pink Guide ? Parce que l'auteur aime cette couleur, tout simplement. Et le rose bonbon appâte le lecteur et l'attire dans la découverte des nouvelles saveurs ukrainiennes.
À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous suivre sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. À demain.